Place Info.
Bonsoir, le plan pour les urgences d'Agnès Buzyn, la polémique sur l'épandage des pesticides, les inquiétudes toujours autour du Brexit, la République en marche face au casse-tête des municipales. C'est dans les informés avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine d'investigation sur l'Europe tous les dimanches sur Arte et rédactrice en chef de Fumigène Magazine. Avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, avec Jean-Daniel Lévy, directeur département politique et opinion Harris Interactive, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste à France Info. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Agnès Buzyn peut-elle éteindre l'incendie? La ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé donc son plan de refondation des urgences, avec notamment le déblocage de 750 millions d'euros sur 3 ans.
750 millions d'euros de mesures nouvelles d'ici la fin du mandat, c'est-à-dire dans les 3 ans qui viennent. 80% de ces financements sont bien dédiés à des ressources humaines, au financement de moyens humains, de recrutement de personnel ou de renfort, que ce soit pour la régulation médicale, que ce soit pour la gestion de ligne, que ce soit pour l'aval des urgences.
Henri Vernet, il y a donc ce chiffre, 750, pour être précis, c'est 754 millions d'euros. Est-ce que cela signifie que un geste, un effort est fait de la part du gouvernement?
Oui, c'est incontestable. Et c'est assez rapide. Il y a vraiment une prise en compte du problème, de l'urgence. Je veux dire, clairement, on voit maintenant que l'effet gilet jaune, il est passé par là. Alors, deuxième acte ou pas, j'en sais rien. Tout ça, c'est de la com. Mais la réalité, c'est quand même que ce gouvernement semble avoir appris à ne pas laisser couver les braises, à ne pas laisser se développer les incendies. Là, il y a une réponse qui est... Alors, évidemment, elle sera jamais jugée assez à la hauteur par ceux qui sont confrontés à ces pénuries de personnel, à ces difficultés, à ces cadences. Quand on voit ce quotidien des urgentistes, des médecins, des infirmières, des aides-soignants, c'est vrai que c'est parfois catastrophiste, mais... Et tous ceux qui s'en vont. Mais là, il y a quand même une prise à bras-le-corps du problème. On verra si ça suffira. Il faudra, en revanche, maintenant, il faudra suivre si réellement ça ira à des recrutements et à des renforcements humains. Ça, c'est toute la question. Elle sera là. Le défi, il est là.
Justement, Nora m'a dit, à ce stade, il n'y a pas de recrutement ni de lits supplémentaires.
Oui, donc en fait, c'est là où je ne vais pas rejoindre mon cher Henri Vernet. Henri, c'est que je veux bien, en fait, qu'on se dise 750 millions. Alors, on fait un effort. Quand il n'y a ni recrutement, ni lits supplémentaires, qu'il n'y a même pas de moratoire sur les fermetures d'hôpitaux ou de maternité. Sur 750 millions d'euros sur 3 ans, ça veut dire 250 millions d'euros par an. On est quand même dans quelque chose qui est, à mon sens, plutôt symbolique, eu égard, en fait, à ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle juste qu'il y a quand même des gens qu'on retrouve morts, en fait, dans les couloirs des hôpitaux, dans les urgences aujourd'hui. Sachant que, dans ce cadre-là, on n'a traité que les urgences, la question des déserts médicaux qui est quand même l'origine, en fait, aujourd'hui, de cet engorgement des urgences, qui fait qu'en fait, pas seulement, bien entendu, mais cette question-là est en l'état, pas non plus traitée, en fait, dans le cadre de ce plan qui était censé apporter, en fait, des solutions. Je vois pas en quoi ça va régler quoi que ce soit, là, en l'état.
J'ai dit, à condition que ça suive, et qui est les recrutements?
Oui. Gilles Bornstein, cela va s'appuyer, il y a une douzaine de mesures en tout, on va pas toutes les égrener, mais sur la médecine de ville, la prise en charge.
Exactement.
Donc, il y a une tentative de désengorger techniquement les urgences.
Exactement, c'est pour ça que je serais d'accord ni vraiment avec Nora, ni vraiment avec
Mais
Henri.
C'est ça le débat, il faut
Exactement,
qu'on soit pas d'accord.
Exactement, c'est ça le débat, parce que sinon, pour régler le problème des urgences, il y avait deux solutions. Soit on permettait aux 21 millions de patients qui se présentent aux urgences tous les ans d'être mieux accueillis, mieux soignés, mieux traités, et donc il fallait recruter massivement, ouvrir des lits et recruter des médecins, soit on se débrouillait pour qu'il y en ait moins. Et manifestement, la ministre a choisi, en dépit du petit bout de son qu'on a entendu, la ministre a choisi ça, qu'il y en ait moins. D'où ce SAS, SS, ce service téléphonique ou net qui permettra d'orienter ailleurs que pour les urgences. Alors, je ne crois pas, comme vous l'avez dit, que c'est symbolique. C'est pas symbolique, parce qu'on voit qu'il y a des mesures. Mais je ne crois pas non plus que ça soit de nature à calmer la grogne des personnels, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien pour tout de suite. Il n'y a rien pour tout de suite. J'ai l'impression, alors vous dites, les gilets jaunes sont passés par là.
Oui, je trouve que le processus politique a changé. Il est plus rapide, il est plus concret.
Mais d'une certaine manière, je trouve que c'est du Macron première manière, c'est-à-dire c'est intelligent, c'est de bon sens. On l'écoute, on se dit oui, mais je ne suis pas certain que ça va changer demain la vie ni des patients, ni des soignants. Et j'ai entendu les premières réactions. Je ne suis. J'ai l'impression que.
On est passé. Vous citiez le chiffre de 21 millions. En 96, c'était 10 millions de personnes reçues aux urgences. Ce SAS qui est en train d'être créé, c'est un, à mon sens, un ressuscité d'SOS Médecins. Je ne suis pas certaine
On va y venir.
Je ne suis pas certaine que ça permette, en fait, de désengorger pour revenir
en
à
tout
un
cas,
système.
Pas tout de suite.
Jean-Daniel Lévy, est-ce que cette annonce, cette série d'annonces, une douzaine donc de propositions de la ministre, peut éteindre l'incendie dans les services d'urgence?
Peut-être que déjà, on peut rappeler que l'enjeu peut-être pour le ministre, c'est peut-être pas uniquement ce qui se passe dans les services d'urgence, mais la manière dont les Françaises et les Français peuvent réagir par rapport à cela. C'est un des mouvements qui est le plus soutenu de la part globalement de la population française, avec une empathie extrêmement grande à l'égard de ces acteurs, et donc pas uniquement un enjeu à l'égard des acteurs, mais à l'égard de l'ensemble de la population française. Et puis, le deuxième aspect qui est assez frappant, c'est qu'en général, lorsqu'on annonce des mesures avec des millions, ça ne marche pas d'un point de vue d'opinion. C'est-à-dire que ça n'a aucun aspect concret. Les Français ont beaucoup de mal à pouvoir se projeter, qu'on dise 100 millions, 200 millions,
oui, 750 millions, millions et des milliards, ça ne parle
donc
plus.
C'est une très grande difficulté de pouvoir se rendre compte précisément ce que ça peut changer. Donc soit il y a l'évocation d'un changement de système fondamental, soit il y a l'évocation d'embauche, soit il y a l'évocation en fait du nombre de lits qui peuvent être produits en fait ou proposés aux Françaises, aux Français. Mais là, effectivement, les annonces qui sont des annonces qui sont chiffrées, d'un point de vue, l'histoire d'opinion nous a montré que globalement, ça n'avait pas forcément l'effet qui était l'effet escompté.
Sujet trop technique, Gilles Bernstein, il faudrait mettre peut-être quelque chose derrière ces millions.
Peut-être la ministre qui pourtant est un
chiffrage.
Elle vient du service public, elle a été chef de service dans le service public, elle a le service public et la santé chevillée au corps. Peut-être manque-t-elle parfois un peu d'empathie dans sa façon de présenter les choses, parce que j'ai écouté sa conférence de presse. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'appel à tous ces médecins, à tous ces personnels soignants qui passent leur vie dans des conditions extrêmement difficiles dans leur service.
Allez, on va rester sur ces questions de réforme. Forme des urgences, 20h10 sur France Info. Tout d'abord, rappel de l'info avec vous, Jules de Kiss.
Air France KLM est candidat à la reprise de la compagnie Aigle Azur. Le groupe le confirme à France Info. Il propose d'injecter 15 millions d'euros et de conserver près des deux tiers des salariés français. Mais il est loin d'être le seul en lice puisque 14 offres en tout ont été déposées. Le choix final dans ce dossier devrait être rendu dans une semaine. Les mauvais chiffres de la sécurité routière, 44 morts de plus sur les routes de métropole en août. C'est une hausse de 18% par rapport au même mois l'année dernière. Un homme tue sa femme, sa belle-mère et son beau-frère avant de se donner la mort. Cela s'est passé à Mossane-les-Alpilles, au sud d'Avignon. Le procureur de Tarascon n'avance pour l'instant aucune explication à ce triple homicide. À Londres, le président de la Chambre des communes va démissionner prochainement. John Bercow l'a annoncé, les larmes aux yeux. C'est une personnalité parlementaire incontournable dans le pays. Il le fera même dès ce soir si les députés votent pour la tenue d'élections législatives anticipées, comme le réclame Boris Johnson. Étant donné les équilibres au Parlement, cela a peu de chances d'aboutir. L'activité du Parlement, qui de toutes les façons sera suspendue dès ce soir après ce vote sur décision du Premier ministre. Et puis les basketteurs français sont au pied du mur. Ils vont devoir battre les Américains mercredi en quart de finale des championnats du monde en Chine s'ils veulent continuer l'aventure, puisqu'ils terminent deuxième de leur groupe après leur défaite 100-98 contre l'Australie au terme d'un match épique et spectaculaire.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Peut-être un manque d'empathie, disiez-vous à l'instant, Gilles Bernstein, à propos de cette exposé de la ministre sur la réforme des services des urgences. Écoutez ce que disait ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui était l'invité de France Info.
Et ce qui est sûr, c'est que ça commence à faire une annonce conséquente. La seule question, c'est... où est-ce qu'ils vont être ciblés? Au service de quoi? Comment on va répondre à la souffrance des agents, le besoin de reconnaissance qui est le leur, et comment on va faire en sorte que leurs conditions de travail soient enfin décentes? Parce qu'aujourd'hui, elles ne le sont plus.
Henri Vernet, il y a les millions d'un côté, certes, c'est ce que dit Laurent Berger. Mais ensuite, il y a les personnels.
Mais bien sûr,
les conditions de travail.
Oui, mais là, il faut être honnête. Clairement, c'est pas un problème qui date ni de l'élection d'Emmanuel Macron, ni même de celle de François Hollande, ni même voilà, c'est une question qui s'aggrave évidemment avec les changements démographiques de notre pays. Donc c'est évidemment un énorme problème. Encore une fois, quand on voit ces témoignages, quand on voit la situation de l'hôpital public en France, et ça, c'est à la portée de tous, on se rend compte qu'il y a des changements énormes et des moyens énormes à y mettre. Ce que je trouve désespérant, ce sont par exemple tous ces praticiens qui s'en vont, qui vont dans le privé, qui choisissent un statut intermittent pour justement ne pas être confrontés à ce presque misérabilisme tous les jours. Bon, mais tout cela, ça met du temps pour être changé. Alors peut-être, même sans doute, faudrait-il des ministres peut-être un peu moins techno. Pourtant, elle est du sérail. Mais enfin, en tout cas, qu'elle parle peut-être davantage avec, je veux dire, avec son expérience de médecin, avec son expérience de praticienne. Et en effet, en évoquant des ouvertures de lits, des embauches, d'aides-soignants, d'infirmiers, de médecins. Mais tout cela se fait, je veux dire, pas à pas. Enfin, l'essentiel est quand même, dans un premier temps, d'ouvrir les crédits.
Nora m'a dit, vous ne sembliez pas tout à l'heure convaincu par le fameux service d'accès aux soins dont parlait Gilles Bernstein, le SAS. Vous savez, l'idée, c'est de passer par une sorte de télétraitement en amont, en fait, des urgences pour essayer éventuellement, de réorienter les patients.
Oui, qui s'apparente, en fait, finalement, à ce qu'on peut trouver, soit en appelant le 15, puisqu'on a un médecin régulateur
en ligne.
La
ministre a dit que ça n'existait pas.
Ah, mais c'est pareil que SOS médecin finalement, soit on vous envoie un médecin ou pas un médecin quand on est sur des zones urbaines, soit quand on appelle le 15, on a un médecin régulateur et on détermine.
Aujourd'hui, il y a soit on appelle le 15 et on est forcément envoyé dans le public, soit on appelle SOS médecin, on est renvoyé dans le privé.
Le 15 vous envoie pas forcément. Non, c'est pas vrai, le 15 vous traite pas forcément en vous envoyant dans le public.
Mais ça, l'idée, enfin moi je n'ai pas d'action chez la ministre, mais l'idée c'est de dire il faut qu'il y ait un numéro d'appel qui, en fonction de ce que vous avez, vous envoie soit aux urgences si vraiment vous relevez des urgences, soit dans un cabinet en ville en fonction de l'endroit où vous appelez. Si vous avez une entorse à la cheville, on peut vous dire allez chez tel orthopédiste.
Mais le 15,
l'idée à terme, c'est
le médecin régulateur du 15 le fait déjà. Enfin, quoi qu'il en soit,
l'idée à terme, Nora m'a dit, c'est d'uniformiser ces numéros d'urgence. C'est pas encore fait.
Mais c'est aussi en fait de répondre à une angoisse qui est celle aussi des patients, et il faut l'entendre, par rapport en fait à une demande de santé qui est de plus en plus dans certains territoires, et y compris dans des territoires qui sont en zone urbaine. Je rappelle que le 93 est un désert médical, que vous avez en fait dans le 91, à 16 km de Paris, des déserts médicaux. À Ivry-sur-Seine, vous avez des manques de médecins, de pédiatres, de gynécologues, et on est aux portes de Paris. Je parle de Paris, qui est la zone que je connais le mieux. Mais vous avez ça partout. Et cette angoisse aujourd'hui, il faut bien l'entendre de la part en fait des patients. Et c'est ça peut-être qui a manqué aussi dans la prise de parole de la ministre, c'est reconnaître qu'il y a des errements qui conduisent en fait à des morts dans les services d'urgence. On parlait de la Riboisière en décembre 2018. Une femme est restée 12 heures à la Riboisière aux urgences et elle a fini par être trouvée morte. Des femmes qui accouchent dans les voitures, des enfants. Enfin, on en est là aujourd'hui et on se rend compte à quel point cette angoisse-là ne peut pas être jugulée par juste des annonces d'une plateforme téléphonique et de 750 millions d'euros sur 3 ans.
Jean-Daniel Lévy, pour poursuivre ce que dit Nora Amadi, s'agit-il de la réforme des urgences ou de l'hôpital en général?
Oui, sachant que en fait l'hôpital a une image d'un point de vue global chez les Françaises et chez les Français qui est extrêmement bonne. Et puis même quand il y a la fermeture, on le sait, d'un hôpital de proximité, ça génère en fait une mobilisation qui est très forte de la part de la population, pas uniquement autour de l'efficacité, mais également autour d'un regard identitaire. C'est mon hôpital, c'est l'endroit où je vais me faire soigner, c'est un endroit également où il peut y avoir le sentiment qu'il y a une forme de sensibilité qui peut être plus importante que dans le cadre du privé. Et avec cette notion qui est exprimé de la part des Français et qui est exprimé également de la part des acteurs de l'hôpital public, c'est il y a une mission. Et cette mission, c'est une mission globale de service public, avec le sentiment qu'il y a des personnes qui sont désintéressées, qui donnent d'eux-mêmes, qui prennent du temps et qui parfois vivent dans des conditions qui sont des conditions difficiles. Et de part et d'autre, il y a le même type de regard. Donc effectivement, derrière la crise des urgences, il y a aujourd'hui une crise globale de l'hôpital et de rôle qu'il peut jouer globalement dans la société française. Et ce qui explique la raison pour laquelle aujourd'hui les Français peuvent dire on n'est pas toujours très bien soigné dans l'hôpital, mais c'est l'endroit prioritairement où souhaite aller, et c'est ce qu'il faut absolument préserver.
Avec une bonne image, donc, disiez-vous, de la part des publics. Alors, pour revenir à l'aspect budgétaire des choses, voici ce que déclarait ce matin le docteur Christophe Prudhomme, c'était toujours sur France Info, le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, qui commentait, non pas les 750 millions de la ministre, mais les 600 millions qu'avaient annoncé au préalable les Échos, n'étaient pas très loin de la vérité. Et il s'est demandé, Christophe Prudhomme, où le gouvernement allait trouver l'argent.
La seule chose qui a changé, c'est l'attitude de la ministre. Elle est plus dans le déni ni dans le mépris. Mais là, annoncer 600 millions, c'est-à-dire 200 millions par an.
C'est important quand même,
ah
600
oui,
millions.
Mais où les prend-on ces 600 millions? On va les prendre ailleurs. On est dans le cadre d'un budget contraint qui est voté par la loi de finances de la sécurité sociale. Alors, c'est le système des vases communicants.
Donc c'est un jeu d'écriture plutôt.
C'est un jeu d'écriture, voilà. Donc aujourd'hui, la colère est tellement profonde qu'il va falloir qu'au-delà d'annonces, parce que vous voyez, cet après-midi, ce n'est pas des négociations. Elle convoque les responsables pour leur expliquer ce qu'elle a décidé toute seule dans son coin. Oui, c'est pas sérieux.
Oui, intéressant ce qu'est dit là. Gilles Bernstein, vous avez une expression assez finalement qui résume bien la situation. Il n'y a pas,
Il n'y a pas d'argent, d'argent nouveau, si j'ai bien compris. C'est des redistributions à l'intérieur de l'enveloppe, ce qu'il dit lui-même, à l'intérieur de l'enveloppe allouée au ministère de la Santé. Agnès Buzyn a décidé d'en consacrer davantage, non pas aux urgences, dit-on dans son cabinet, mais à la résolution de la crise. Parce que quand on ouvre des maisons médicales, ce n'est pas destiné aux urgences, mais c'est pour raison de la crise. Un mot, si vous me le permettez, sur ce monsieur Prud'homme. Moi, il y a une question que je me pose. Je ne sais pas s'il y a des visées politiques à travers ce mouvement. Est-ce que ce sont des gens qui veulent uniquement régler les problèmes des urgences, ou y a-t-il aussi des gens qui veulent en découdre avec le gouvernement et qui ont trouvé un terrain favorable, parce que comme l'a dit Jean-Daniel, il y a énormément d'empathie, que c'est beaucoup plus facile de mobiliser autour de gens qui effectivement n'arrivent pas à soigner leurs semblables et qui laissent des petits vieux 4 heures dans des brancards qu'autour de cheminots qui se battent pour leur statut à vie. Et réellement, je ne sais pas si derrière tout ça,
il y a peut-être des arrière-pensées politiques.
Je n'en sais rien, je me pose la question. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui ont des arrière-pensées politiques, auquel cas on n'est peut-être pas sorti de la crise.
Le secteur de la santé réussirait en quelque sorte, selon vous, c'est une possibilité, hein, pourquoi pas, ce à quoi ont échoué par exemple les cheminots qui, eux, n'ont pas réussi à fédérer
derrière les Français.
Non, mais en effet, c'est une possibilité.
Henri Vernet, sur l'aspect financier, revenons au départ de la question, cela signifie que finalement... on va déshabiller sans doute d'autres postes
alors
budgétaires.
Voilà, et ça, c'est un point crucial, c'est un point en effet essentiel. Si c'est ça, je suis d'accord avec vous. Je serai le premier à dire qu'en effet, c'est de l'enfumage et de la communication politique. Et donc, c'est zéro, c'est nul. Maintenant, il faut espérer qu'en effet, il arrive qu'on soit d'accord, cher Nora. Attendez la suite. Mais si en revanche, ce gouvernement prend réellement la mesure du problème, or c'est ce qu'on nous vend là depuis quelques semaines, des gens qui seraient plus proches, qui auraient un petit peu compris, qui seraient descendus de leur hôtel le jupitérien. Bon, si donc on comprend vraiment cette mesure, eh bien le tripatouillage, ça pourrait aller au-delà d'un simple tripatouillage budgétaire, à l'allocation réelle de fonds, on comprendrait peut-être ailleurs, mais sur un budget autre que celui de la santé. Ça, en effet, pourquoi ne pas y réfléchir? Peut-être que les technocrates français, les politiques également, pourraient parfois faire preuve d'imagination. On est à l'abri de rien, on peut l'espérer.
Imagination, je rappelle que le Parisien, aujourd'hui en France, titrait ce matin de façon très intéressante sur la hausse des taxes foncières dans
absolument,
ce pays.
Absolument, absolument. En fiscalité, malheureusement, on manque jamais d'imagination dans ce pays très colbertien de ce côté-là.
Allez, 20h20 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dequisse.
De l'argent et des mesures pour refonder les urgences à l'hôpital. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dévoile son plan de 750 millions d'euros sur 3 ans. Elle compte mettre à contribution les médecins libéraux, notamment pour éviter l'engorgement des services. Un numéro d'urgence orientera les patients vers eux et non plus à l'hôpital, si la situation le permet. Le chanteur Patrick Bruel a été entendu en audition libre hier par des gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Les faits remontent au début du mois d'août en Corse lors d'un massage avant un concert. Une esthéticienne l'accuse de propositions déplacées et insistantes. Le chanteur nie pour sa part avoir formulé la moindre proposition à caractère sexuel. 5 étudiants de l'Institut catholique et d'enseignement supérieur de La Roche-sur-Yon condamnés à des peines de prison avec sursis après le saccage d'un stand LGBT dans la ville en mai dernier. Ils sont reconnus coupables d'entrave à une manifestation, mais ils échappent à une peine pour injure homophobe. Avec cet autre comparse, ils avaient décidé de perturber le déroulement d'une journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. La Corée du Nord souhaite une reprise des négociations avec les États-Unis sur la dénucléarisation de la péninsule. Elle propose de nouveaux entretiens de travail à la fin du mois, alors que les échanges sont au point mort depuis février dernier, depuis un sommet raté, infructueux entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et puis le Danois Jakob Fuglsang remporte la 16e étape du Tour cycliste d'Espagne, la Vuelta, un parcours montagneux dans les Asturies. Le maillot rouge de leader reste solidement accroché sur les épaules du Slovène Primoz Roglic, qui a presque 3 minutes d'avance sur le deuxième Alejandro Valverde.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Un petit débat comptable à présent. Combien? Allez, 150 mètres, comme le suggèrent les élus locaux, ou de 5 à 10 mètres, selon le gouvernement. Vous l'avez compris, c'est la distance d'épandage des pesticides qui fait débat. Écoutez les arguments de l'ancienne ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui s'est exprimée au micro de France Bleu Poitou.
C'est pas sérieux. Si c'est ça, c'est vraiment pas sérieux. Parce que ces interdictions à 5 mètres, c'est rien du tout. C'est déjà mis quasiment sur les bidons de pesticides. Et le débat, il manque un zéro, si vous voulez. Le débat, c'est entre 50 et 150 mètres.
Nora m'a dit, jolie formule de Ségolène Royal, il manque un zéro. Donc 5 à 10 mètres, pour elle, ce n'est pas sérieux.
On voit bien que
c'est un débat d'experts, hein.
Bah, c'est un débat d'experts et effectivement, il y a c'est ce qu'a posé le ministre de l'Agriculture sur cette question en disant que c'était à la science en fait de trancher, mais qu'il ne pouvait pas retirer en fait des terres agricoles à hauteur de 150 mètres à chaque fois et que ça allait poser des problèmes. Et on sait que derrière, la FNSEA est assez puissante et montée au créneau sur cette question. Après là, c'est la question du principe de précaution et de la santé publique, mais ça touche même pas tant en fait les populations juste aux d'abord que les agriculteurs également, qui sont les premiers touchés. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en fait que d'avoir ce débat de cette zone en fait d'exclusion et de ne pas se poser la question de la santé des agriculteurs derrière. Après,
qui sont impactés au premier chef.
Mais hein. complètement. Donc en fait, il y a une forme d'hypocrisie dans la manière dont le débat est posé sur la santé publique en fait des riverains entre guillemets et de pas se poser la question en fait des agriculteurs qui sont en premier chef concernés. Et après, on voit bien que aujourd'hui, il y a une tension complète et c'est bien normal dans la population. Quand on sait que là il y a eu une enquête de Santé publique France qui a admis que les enfants étaient complètement pétris de perturbateurs endocriniens, solvants, etc. Ça devient presque un débat que un peu hystérisé. Quoi.
Alors, pour vous faire réagir autour de la table, je vous propose ce petit échange à distance. Hein, une riveraine dans le département de l'Hérault près de Montpellier et un représentant de la FNSEA. Écoutez leurs arguments.
Je sens bien que ça fait du mal, voilà. Et pas seulement à moi, ça fait du mal à mes petits-enfants, à mes voisins. Mon témoignage est un témoignage banal. C'est-à-dire que je suis près d'une zone cultivée et traitée avec des produits.
Même ça, sur certaines cultures, c'est irréalisable. Si on prend la vigne, si on prend de l'arboriculture, rendez-vous compte dans le Champagne, entre des maisons, des fois, il n'y a que deux ou trois rangs de vigne.
Jean-Daniel Lévy, ce n'est pas un sujet anecdotique, il en va de la santé des Français.
Il en va de la santé des Français. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cela, il y a une forme de crise de confiance à l'égard des autorités scientifiques. Quand vous regardez, en fait, froidement, qui a décidé en fait qu'on pouvait épandre à hauteur de 5 ou 10 mètres par rapport. En fait, c'est une agence nationale, c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui est composée de scientifiques notamment, et qui disent, au regard en fait de ce que nous avons connaissance aujourd'hui des enjeux, nous considérons qu'on peut épandre à hauteur de 5 à 10 mètres. Et que dans ce contexte-là, il y a après d'autres acteurs qui vont considérer que soit cette autorité n'est pas une autorité indépendante, soit qu'elle n'a pas entièrement la vérité. Donc il y a, d'une manière générale, aujourd'hui, une absence de capacité de la part de ceux qui ont notamment, sur le papier, vocation à pouvoir dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, qui sont remises en cause de la part de ceux qui sont soit en faveur de l'écologie et de l'environnement, soit éventuellement en contact direct avec une réalité. Donc je ne dis pas que les uns ou les autres ont raison ou tort, mais je dis que d'une manière globale, il y a cette forme de remise en cause généralisée dans la société française à laquelle on n'échappe pas en l'espèce.
Gilles Bernstein, pour poursuivre ce que dit Jean-Daniel Lévy, il y a un petit côté nuage de Tchernobyl, hein, souvenez-vous, à l'époque, qui traversait les frontières. On ne sait pas si c'est 5, si c'est 10, si c'est 150, et il y a un débat qui se profile sur la question, une consultation des Français.
Oui, exactement, deux choses là-dessus. D'abord, David Cormand a dit, je crois, le simple fait que l'État reconnaisse qu'il faut une distance minimum, c'est la première fois que l'État reconnaît officiellement la nocivité des pesticides. Alors qu'après, on peut discuter de la distance, que ça soit 10, 15, 20, 100, 150 mètres. Le simple fait qu'on décide qu'il y ait une distance minimum est déjà un progrès. Et sinon, c'est vrai que, alors, puisqu'on en est à 5 à 10 mètres, on sait qu'il y a toujours un débat entre le ministre de l'Agriculture en France et le ministre de l'Environnement. Mais alors, si effectivement c'est 5 mètres, c'est une extraordinaire victoire de Didier Guillaume. Parce que Emmanuel Macron lui-même.
Il y a un débat quand c'est Hulot qui est au ministère. Hein, sinon, c'est beaucoup mais plus. Sinon, c'est
quand,
moi.
Quand
c'est
le maire de je ne sais plus où a dit que c'était 150 mètres, Emmanuel Macron a dit que c'était une très bonne idée. Et puis Didier Guillaume a dit ah ben non, ça ne serait pas vivable pour les agriculteurs. Et finalement, il gagne, y compris contre le président de la République.
Henri Vernet, une consultation des Français là-dessus, ils ne sont pas plus experts que les experts.
Alors, si j'ai bien compris, ça va au-delà de la simple consultation. C'est quand même justement des débats entre parties concernées, intéressées, etc.
Un peu haut de gamme.
C'est-à-dire qu'il peut y avoir, haut de gamme, et donc avec différentes expertises qui figureront autour de ces tables. Celle des ONG, celle des protecteurs de la santé, d'associations également de consommateurs, etc. Je veux dire, c'est pas juste un débat, enfin, c'est pas le café de commerce où on dit, est-ce que c'est 5 mètres la table de ping-pong, est-ce que c'est un peu plus loin, etc. Non, c'est quand même plus sérieux que ça, plus fondé. Ce que disait Jean-Daniel est très juste. Ce qui rajoute d'ailleurs à cette défiance des Français, s'agissant donc de quelque choses d'aussi sensibles et essentielles que la santé, c'est également qu'il y a des puissances d'argent derrière. Il y a bien sûr les agriculteurs eux-mêmes, bien évidemment. Bon, et on peut comprendre qu'ils défendent leur mode, leur travail et leur mode de vie, mais également les fabricants de pesticides qui ont des moyens considérables et dont on sait qu'ils ne lésinent pas sur la manière d'emporter une décision.
Et en un mot, c'est ce qu'on voit aussi au niveau européen, avec toute la dimension autour des conflits d'intérêts derrière ces agences. Ça a été pointé assez régulièrement, notamment sur la bataille autour des perturbateurs endocriniens, du glyphosate, etc.
20h28 sur France Info, nous marquons une pause. La météo, le rappel de l'info, et on se retrouve dans un instant pour évoquer la situation du Brexit à Londres.
Si je te dis porte blindée et réseau de serrurier agréé, tu me réponds ?
Point Fort Fichet, bien sûr.
Eh bien, du 3 au 21 septembre, Point Fort Fichet reprend ton ancienne porte d'appartement ou de maison jusqu'à 700 euros.
Voir conditions en magasin et sur fichet-pointfort.com.
Point Fort Fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
Un temps perturbé sur l'ouest puis sur le sud. Ce soir, des pluies orageuses concernent les régions de l'ouest, de la Bretagne et de la Normandie vers la Nouvelle-Aquitaine. Cette nuit et demain, un temps pluvieux et orageux va remonter par le sud. De l'Occitanie au sud des Alpes, on aura de bonnes pluies, des pluies soutenues et orageuses du Gard jusqu'au Var. On attend des quantités de pluie parfois importantes en peu de temps. Il neigera temporairement vers 1800 mètres sur les Pyrénées, 2400 mètres sur les Alpes. Quelques pluies déborderont sur les autres régions du sud. Ça s'arrangera l'après-midi sur le nord de l'Aquitaine. Retour d'éclaircies. Sur la moitié nord, ce sera bien ensoleillé. Il faudra être patient. Tout de même, le matin, ce sera encombré du Cotentin vers la Bretagne et les Charentes. L'après-midi, on trouvera des passages nuageux près de la Manche et le long des frontières du nord. Il fera 5 à 12 degrés le matin, jusqu'à 18 sur le sud-est. L'après-midi, hausse sous le soleil au nord, 18 à 24 degrés. Ça baissera au sud, 16 à 23 degrés et encore 29 en Corse.
L'info sur vos assistants vocaux, c'est France Info. Demandez à votre enceinte connectée.
Je veux écouter les dernières infos.
La diplomatie à l'épreuve des réseaux sociaux.
France Info.
Et tout est plus clair.
Il est presque 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. C'est vraisemblablement un drame familial qui s'est produit cet après-midi sur les communes de Mouriès et Maussanne, les Aipilles, dans les Bouches-du-Rhône. Un homme a tué sa belle-mère, abattu son beau-frère et sa femme, avant de retourner son arme contre lui. Le récit pour France Info de Marie-Christine Loriol.
Ce sont des voisins alertés par les coups de feu qui ont prévenu la gendarmerie et les sapeurs-pompiers qui se sont aussitôt rendus au domicile des premières victimes à Maussanne-les-Alpilles, une commune située à l'est d'Arles. Arrivés sur place, les secours n'ont pu que constater le décès d'une femme de 95 ans et de son fils, un homme handicapé d'une soixantaine d'années. C'est alors que de nouveaux tirs étaient signalés sur la commune voisine de Mouriès où une femme venait d'être tuée par balle à son tour. L'auteur des coups de feu serait son mari qui auparavant avait tout ouvert le feu sur sa belle-mère et son beau-frère. L'homme, dont on ignore l'identité et les motivations, a ensuite retourné l'arme contre lui. Il est décédé des suites de ses blessures, selon les informations communiquées par le procureur de la République de Tarascon, Patrick Desjardins, qui a par ailleurs indiqué qu'il s'agissait, a priori, d'un drame familial. Marseille, Marie-Christine Auriol, France Info.
Agnès Buzyn annonce une rallonge de 750 millions d'euros de crédit sur 3 ans pour tenter de désengorger les services des urgences, dont la moitié sont en grève en France. L'enveloppe servira à financer diverses mesures en s'appuyant davantage sur la médecine de ville notamment. En revanche, pas d'ouverture de ligne ni de recrutement de personnel prévu par le plan annoncé par la ministre comme le réclament pourtant les grévistes. Un nouveau numéro vert mis en place pour lutter contre la vague de suicides qui sévit dans les rangs de la police. Il permettra aux fonctionnaires d'avoir un accès anonyme, confidentiel et gratuit 24 heures sur 24 aux psychologues de la plateforme. 48 policiers ont mis fin à leur jour depuis le début de cette année en France. Le procès des deux ex-gérants du Cuba Libre à Rouen s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de la ville. 14 personnes, dont une majorité de jeunes, avaient péri dans le sous-sol du bar. C'était lors d'un incendie en août 2016. Le feu avait été déclenché par 2 bougies d'anniversaire. Le tribunal s'est d'abord intéressé aujourd'hui aux personnalités des propriétaires des lieux, 2 frères de 40 et 48 ans. Ils encourent 5 ans d'emprisonnement et 76 000 euros d'amende. Une fusillade a éclaté ce soir, ça s'est passé à Dordrecht aux Pays-Bas, c'est ce qu'annonce la police de Rotterdam sur Twitter. D'après la police néerlandaise, plusieurs personnes auraient été tuées, on n'en sait pas plus pour l'instant. Le Brexit est le président de la Chambre des communes qui annonce sa démission plus tard le 31 octobre prochain. John Bercow, qui a parfois été accusé par les partisans d'un Brexit dur d'avoir outrepassé les règlements parlementaires à leur détriment. Les travaux du Parlement britannique, quant à eux, sont bien suspendus jusqu'au 14 octobre. Les basketteurs français battus par l'Australie 100 à 98 pour leur dernier match de groupe en Chine. Les Bleus qui seront contraints à l'exploit en quart de finale de la Coupe du Monde de basket contre les États-Unis. Et ce sera mercredi. Les informés, ça continue.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, magazine d'investigation sur l'Europe le dimanche sur Arte, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, avec Jean-Daniel Lévy, directeur département politique et opinion chez Harris Interactive, et avec Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Il ne se passe plus un jour sans un coup d'éclat à Londres. Cette fois, c'est le speaker de la Chambre des communes qui démissionne. Le Parlement va être suspendu ce soir après un vote sur des élections législatives anticipées qui sera vraisemblablement rejeté. J'espère que vous suivez. Le Brexit dans la douleur, vu de Paris, par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Il était l'invité du 18-50 de France Info.
Le fog londonien a tendance à s'épaissir. Et face à cela, c'est notre devoir d'être prêt, de pouvoir faire un certain nombre de tests.
Mais vous comprenez ce qui se passe à Londres, en fait ?
En réalité, les Britanniques nous ont dit ce qu'ils ne voulaient pas. Mais on a du mal à voir ce qu'ils veulent, exactement. Vous le savez, Boris Johnson avait promis un certain nombre de propositions, mais pour l'instant, on a du mal à les discerner. Et donc, face à cette incertitude londonienne, eh bien nous, nous sommes solides sur nos appuis.
Nora m'a dit, c'est plus que le fog au stade où on en est.
Là, c'est le Brexit chaos. C'est le hashtag, en fait, qui tourne, qui est en top tweet en Angleterre en ce moment. Parce qu'effectivement, personne ne sait ce qui va advenir de tout cela. Le vote, vous le disiez, doit avoir lieu ce soir. Il va être rejeté. Alors, élection anticipée, pas élection anticipée. La reine a promulgué le fait qu'il n'y ait pas de no deal possible. Sauf que, de fait, il n'y a eu aucune proposition du Premier ministre. Il dit partout, il claironne que les négociations ont bien avancé. Sauf qu'en fait, côté Bruxelles, c'est pas du tout le même propos. Peu de gens sont allants pour le moment à Bruxelles pour reporter, ce qui est la position des parlementaires. Enfin, autant dire que le 31 octobre, ça risque d'être un chaos absolu et qu'on va se réveiller.
Encore un mot, puisque vous connaissez ces questions-là sur l'Europe, est-ce que ça peut aller plus loin que le 31 octobre, qu'il puisse y avoir un report?
Dans l'absolu, oui, bien sûr. Il suffit en fait de demander un report, comme ce qu'a déjà fait Theresa May en mars dernier.
Il ne suffit pas de le demander, il faut l'unanimité des 27.
Alors, il faut déjà le demander, et ensuite, il faut l'obtenir. Et pour l'obtenir, et vous vous souvenez effectivement du bras de fer qui avait eu lieu à l'époque, Merkel-Macron, mais surtout, il avait fallu que Theresa May mette des billes sur la table en disant « aidez-moi en fait à faire en sorte que ça se passe plutôt bien ». Derrière, elle a perdu sa majorité, enfin elle a été renversée, et on voit où ça en est aujourd'hui, ce n'est même pas... Et puis ce serait un mauvais signal aussi côté Union européenne de démarrer avec une nouvelle commission au 1er novembre prochain, parce que je rappelle que Ursula von der Leyen présente demain la nouvelle commission qui va être ensuite auditionnée par les parlementaires européens. Ils doivent commencer au 1er novembre. Donc démarrer en fait avec ce boulet au pied qu'est le Brexit qui n'est toujours pas effectif. Personne, enfin au niveau européen, tout le monde commence à avoir un peu peur en fait de ce que ça peut représenter, parce que l'Allemagne est en récession, enfin pourrait tomber en récession si.
Vous voulez dire qu'on ne peut pas anticiper au fond quel sera le réel impact de ce Brexit
sur. On le sait, bien sûr. On le sait. Ouais. On sait qui sont les gagnants, on sait qui sont les perdants. Après, la problématique, c'est à quel niveau. Si on est dans un no deal complet, ça va être un crash. Et c'est ça la problématique, c'est que ce crash. Les Britanniques vont se le prendre effectivement en premier lieu, mais il y aura des secousses telluriques et ça va toucher tous les pays européens. Et l'Allemagne là-dessus, c'est pour ça qu'Angela Merkel à l'époque avait été plutôt allante pour repousser d'une année. C'est que l'Allemagne, en fait, est très exposée.
Henri Vernet, quand Jean-Baptiste Lemoyne sur France Info tout à l'heure nous dit les Français sont prêts, la France est prête, faut-il le croire ?
Alors non, il exagère un petit peu. Il se trouve que dans le Parisien, nous, on a fait Amélie Montchalin, donc la ministre des Affaires européennes, qui elle reconnaît que bien sûr, oui, l'État en gros est prêt. C'est-à-dire que les douaniers sont là. C'est-à-dire que si réellement le 31 octobre, il y a une sortie sans accord, en effet, il y a un moyen de traiter. Parce que concrètement, il s'agit de quoi ? Mais ça va pas être le chaos. C'est simplement que les Britanniques et les Français à l'inverse, enfin et les Européens à l'inverse, vont être traités comme si le Royaume-Uni était un pays très très lointain, un pays d'Asie, un pays voilà, bref, un pays avec lequel il n'y a aucune entente douanière. Mais bref, donc là-dessus, l'État est prêt. En revanche, elle reconnaissait, donc cette secrétaire d'État aux affaires européennes, que bien des entreprises qui, elles, ont du commerce, mais pas des masses et des masses, pas des sommes extrêmement importantes, mais qui commercent comme des relations, ne sont pas entièrement prêtes. Mmh. Et de même que pour les particuliers, il y aura aussi un temps d'ajustement. Ce ne sera pas le chaos, mais disons que les choses ne seront
ce sera
pas simples.
Ici en France, mais pour d'autres pays, ce sera...
Oui, enfin, encore... Bon, disons simplement qu'on va se retrouver, en effet, avec une Europe très bancale, et puis surtout, encore une fois, avec une image politique désastreuse. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point le Royaume-Uni, qui est quand même, alors paradoxalement, c'est un royaume, mais c'est le berceau, c'est la démocratie parlementaire la plus achevée, à quel moment, à quel point tout cela est balayé, tout cela est piétiné, c'est vraiment le règne d'une certaine, d'une certaine
démagogie d'un populisme. Ils ont quand même démontré qu'ils pouvaient être un contre-pouvoir à Boris Johnson, ce qui n'aurait pas pu être
oui, mais
le cas.
Oui, mais regardez, Boris Johnson dit qu'ils s'en fichent de leur vote, puisque leur vote, c'est quoi ? C'est de dire, il n'est pas question de sortir sans accord. Or, Boris Johnson, après ce vote, dit, mais si, je sortirai quand même sans accord. Il lui dit, quitte à aller en prison, puisqu'il mériterait, il serait passible d'aller en prison, il dit, mais je m'en fiche. Son âme damnée à la Cummings, son conseiller occulte, comment dire, le pousse.
Jean-Daniel Lévy, il y a un effet sur, à redouter sur la vie économique, au fond. On parlait de ces 20 000 entreprises françaises, PME, à moyenne taille, qui commercent avec la Grande-Bretagne. Ben,
sur la vie économique, enfin, en tout cas, quand nous, on est amené à interroger des dirigeants d'entreprise, ils sont plutôt dans le grand flou que dans l'expectative positive ou négative.
Grand flou, c'est-à-dire avec quand même une petite inquiétude, non?
Petite inquiétude, mais qui n'est pas aujourd'hui en fait en train de tétaniser, en tout cas ceux qui sont amenés à réaliser du commerce au niveau international, en disant qu'ils, enfin, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont du mal à pouvoir anticiper précisément ce qui va se passer et ce que peuvent être les conséquences à titre personnel, aussi bien en fait du point de vue des dirigeants d'entreprise que même du point de vue des Français d'un point de vue général, qui globalement disent qu'ils ne souhaitent pas majoritairement que le Royaume-Uni quitte l'Europe en tant que telle, mais que dans un même élan, vont pas forcément tout faire pour dire il faut absolument sauver le soldat du Royaume-Uni. Et même dans les sujets de conversation, dans les sujets de préoccupation, on peut voir, alors même qu'on s'approche de la date fatidique, que s'agit ni d'un gros sujet de conversation des Français, ni d'un point qui est un point qui a tendance à les tétaniser à l'heure actuelle.
Il y a beaucoup d'interrogations autour de ce Brexit, évidemment. 20h40, nous marquons une pause avec vous, Jules Dequis, c'est le rappel de l'info.
Une fusillade aux Pays-Bas il y a quelques minutes à Dordrecht, dans la banlieue de Rotterdam. D'après un premier bilan de la police de la ville, il y a au moins 3 morts et 1 blessé grave. On ignore tout pour l'instant du déroulé des faits. Le maire de la ville parle d'un événement très grave et il adresse ses pensées aux victimes. 750 millions d'euros et 12 mesures pour régler sur le long terme la crise dans les services d'urgence. C'est la promesse faite ce soir par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Elle présente son plan de refondation après 6 mois de grève des personnels hospitaliers. Le collectif Interurgence se montre sceptique. Il regrette notamment que rien ne soit cédé sur les revendications salariales. Le nombre de morts sur les routes en France est en nette hausse, plus 18% au mois d'août dernier avec 290 personnes tuées. C'est 44 de plus qu'au même mois l'année dernière. En revanche, la mortalité des cyclistes est en légère baisse. Il manque un zéro d'après Ségolène Royal. Pour l'ancienne ministre de l'écologie, il faut prévoir un périmètre de 50 à 150 mètres entre des cultures traitées aux pesticides et des habitations. Le gouvernement table plutôt sur une distance de 5 à 10 mètres en suivant les préconisations de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Il lance une concertation sur le sujet aujourd'hui. La très mauvaise opération des basketteurs français. Ils s'inclinent 100 à 98 contre l'Australie. Ils vont donc devoir défier l'ogre américain en quart de finale des championnats du monde qui se jouent en ce moment en Chine.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h. Les informés. Jean-François Aquili.
Comme promis, nous allons évoquer les élections municipales et débriefer ce week-end étonnant à Bordeaux de La République En Marche. Mais tout d'abord, je voudrais soumettre tous les quatre à votre sagacité cette déclaration de Jean-Yves Le Drian en visite officielle à Moscou, évoquant le conflit à l'est de l'Ukraine, qui a déclaré ceci à propos de la Russie.
Le moment est venu, le moment est propice pour travailler à réduire la défiance
entre la Russie et l'Europe, qui devraient être des partenaires sur le plan stratégique et économique, et qui devraient être d'autant plus des partenaires parce qu'il y a beaucoup de liens qui nous unissent.
Un des rapides tours de table, Gilles Bernstein, ça y est, Vladimir Poutine est de nouveau notre ami.
Ben voilà, on oublie l'annexion de la Crimée, on oublie les assassinats aux armes chimiques. Il n'y a pas très longtemps, l'Europe a dit avoir la preuve que Skripal, etc. On sait que c'est la Russie qui, sur le territoire de l'Europe, a fait assassiner des gens. On oublie le soutien à Bachar el-Assad. On oublie l'autorisation tacite donnée par Moscou à Bachar d'utiliser des armes chimiques. Alors, je ne suis pas un enfant de cœur, je sais qu'il y a la réelle politique, mais je trouve que le retournement de situation est assez rapide.
Nora m'a dit sur cette attirance d'Emmanuel Macron vers la Russie et ce désir de tourner la page Hollande.
Bah, là, je rejoins effectivement ce que vient de dire Gilles. C'est effectivement une volte-face. Même s'il y a eu déjà des tentatives, il faut se souvenir de l'arrivée du président russe à Versailles sous les ordres de la République. Les remises en cause, les tacles
de la
royauté, effectivement, mais bon, nous sommes une monarchie républicaine, oui. Peut-être. Mais et donc il y avait eu effectivement quelques tacles. On se souvient d'Emmanuel Macron qui avait été assez offensif, notamment sur le traitement de l'information, sur Rush Today et le choix en fait. Mais on ne va pas revenir sur cette histoire. Après, on est aussi, vous le disiez, dans la réelle politique, à l'heure en fait où Trump est dans une optique en fait de faire de l'Europe vassal, mais il y a une forme en fait de pression sur l'Union européenne. Les Britanniques vont sortir et l'idée c'est qu'ils deviennent aussi les vassaux des États-Unis. Il y a un moment où il faut se retrouver quelque peu des alliés et dans les grandes puissances, si ce n'est en fait aller faire un baiser de la mort entre
considérant
guillemets
que
avec
la Russie
Chine,
serait éminemment européenne hein, également.
Oui, mais il y a une dimension. Oui. Mais c'est vrai que sur la question des liens, Jean-Yves Le Drian n'a pas tort. Mm. Mais là, effectivement, il y a deux trois petites choses à régler qui ne le sont pas.
Henri Vernet, c'est Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont pour sa rentrée hier, qui s'est félicité d'avoir réussi à convaincre Emmanuel Macron.
Mais oui, c'est son grand ami. Parce que, en effet, tout ce qu'a rappelé Gilles Bernstein, bien sûr, de Marine Le Pen. Mais oui, mais Poutine est ami avec tout ce qui peut gêner, détruire l'Europe. Mm. Je veux dire, il y a Bannon avec Trump et il y a les réseaux poutiniens. Pour lui, l'Europe, c'est quelque chose qui le dérange, l'Union européenne. Et donc, il a toujours mené un travail de sape pour démolir un petit peu l'Europe et, on le sait bien, hein, le soutien en effet à tous les mouvements, je veux dire Salvini en Italie, les populistes un peu partout, Marine Le Pen sont les grands amis de Poutine qui d'ailleurs leur accordent des avances. Maintenant, c'est vrai que la réelle politique c'est aussi ça. Je suis entièrement d'accord que tout ce qui fait que Poutine et la Russie ont été ostracisés et sont sous sanction depuis 5 ans, rien n'a changé. Il est toujours le même autocrate et il mène toujours les mêmes menées néfastes à l'étranger. Mais c'est en effet, Le Drian a raison, il vaut mieux parler à son ennemi. Simplement, quel est le prix? C'est là qu'il ne faut pas être naïf. Quel est le prix qu'on va en retirer? Il faut remarquer qu'il y a Le Drian, mais il y a également le ministre de la Défense. Mmh. Il faut savoir que la guerre, aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre de cyberespace, c'est la guerre cyber, et que là-dedans, la France, d'ailleurs, a détruit un satellite russe, enfin, a empêché, en tout cas, un satellite russe de détruire un des nôtres il y a quelques mois. Si on arrive, justement, à contenir la Russie en lui parlant, en se montrant ferme, on arrive à des partenaires, et surtout à asseoir un petit peu la France là-dedans, eh ben, ce sera donnant.
Jean-Daniel. Avec le format Normandie sur la question ukrainienne, avec l'Allemagne.
Le format Normandie, c'est compliqué pour nos auditeurs.
Non, justement, le format Normandie, donc c'est Allemagne, Ukraine, France et Russie, ça va
changer
rien donné.
Macron, Poutine, rapidement, traduction, selon vous?
Mais traduction, c'est qu'il y a un petit espace d'opinion qui existe, en fait, et on l'a vu depuis quelques temps, qu'on est face à des Français qui sont un peu moins critiques à l'égard de la Russie que par le passé, notamment depuis l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis, et avec des Français qui souvent, en fait, mettent en avant la question des droits de l'homme comme étant un préalable, et qui, là, un peu moins que par le passé, mobilisent et considèrent qu'il peut y avoir aujourd'hui une forme de réelle politique et en considérant qu'il y a des nouveaux pôles qui se constituent et pourquoi pas s'allier avec la Russie et qu'ils ne nous parlent quasiment jamais de la Crimée, de l'annexion de la Crimée par la Russie.
Oui, ce sujet passe sous les radars.
Une anecdote je me souviens de quand Emmanuel Macron a reçu des journalistes pour les vœux, tout le monde dans la salle des fêtes de l'Élysée. C'était au moment de la déclaration de la loi fake news et il avait fait un long développement pour dire absolument. À quel point tout cela était grave et à quel point il était absolument certain que tout cela venait de Moscou, de Poutine, Poutine, de l'entourage même de Poutine, alors on connaît les histoires avec Trump, mais y compris en France, avait tout fait pour favoriser l'élection de Marine Le Pen et empêcher celle d'Emmanuel Macron. Sans parler des rumeurs
oui, d'où les discussions aujourd'hui, justement, c'est
que
Rocha Toudet
avait fait courir sur l'homosexualité présumée d'Emmanuel
tout
Macron.
Tout ça appartient au passé.
Je trouve qu'il est quand même pas rancunier, le président.
Non, à moins qu'il le traite, encore une fois. Vous voulez faire la paix avec votre ami, vous parlez avec lui.
Allez, nous allons à présent refermer ces informés en débriefant, pardonnez-moi cet anglicisme, le campus de la République en marche à Bordeaux. Et tiens, prenez la main, Henri Vernet, ce campus aura été consacré en partie hein, au sauvetage, pardon pour ce cliché du soldat Griveaux.
Mais bien sûr.
On reprend un titre de presse.
Et de manière totalement spectaculaire. Je veux dire que la mise en scène qui a été effectuée là-bas, autour de la prise de parole, de position à Bordeaux d'Édouard Philippe, hein, du Premier ministre, qui dit « bah non, je n'irai pas à Paris », et puis il le dit avec un certain talent. C'est un vrai showman, hein, ce Premier ministre. Il est assez doué, il fait rire, il a de l'humour, donc ça, il sait faire. Mais tous ces efforts, encore une fois spectaculaires, qui ont été déployé montre à quel point il y a péril en la demeure à Paris. C'est-à-dire que là, cette campagne Griveaux, elle est extrêmement mal partie. Bon, c'est pas tellement que celle de Cédric Villani, le candidat dissident, soit mieux parti. C'est vrai qu'on voit que sur le programme, il est très loin d'être prêt. C'est un euphémisme. Mais bref, ce qui est apparu, c'est que décidément, ce nouveau monde ressemble totalement à l'ancien dès lors qu'il s'agit de se partager des terrains électoraux, des terrains à conquérir. Je veux dire qu'il y a des problèmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? C'est que l'appareil macronien, donc Édouard Philippe, Stanislas Guérini, essaie de ramener un petit peu de calme dans les troupes, essaie d'organiser des élections pour qu'elles soient quand même municipales, pour qu'elles soient quand même le moins mauvaises possible, voire le mieux possible. Mais il y a également des problèmes avec les autres composantes de la majorité. Bref, Bordeaux, en gros, c'était, allez, on essaie quand même de ressouder et de remotiver
et
la
de
famille parce
un
que
petit, y a un petit peu les blancs urgence. Aussi.
Voilà. On voit aussi d'ailleurs que la tentation du Havre pour le Premier ministre.
La tentation du Havre. Nora Hammadi rappelait que Benjamin Griveaux est le seul candidat dans la capitale. Est-ce que ce n'est pas peut-être, comme l'ont écrit certains, souligner une éventuelle forme de fragilité?
Bah, complètement. Et puis, faut dire que c'est effectivement un démarrage qui n'a pas du tout imprimé et que derrière, on se retrouve avec ce nouveau monde qui a des goûts d'anciens, avec les dissidences qu'on ne traite pas, Cédric Villani, du coup, qui vient polluer un peu tout ça. Le problème, c'est que là, Paris, c'est un petit peu la tête de gondole, mais c'est le cas, en fait, partout. Typiquement, l'arrière-ban de La République En Marche est quand même pas très garni. À Lyon, ça va être extrêmement compliqué. À Marseille, on ne sait pas. À Bordeaux, c'est compliqué. Donc là, aujourd'hui, l'atterrissage, entre guillemets, d'un mouvement qui apparaît comme étant de fait un peu hors sol, puisqu'il a été incarné par le président de la République, ce campus des territoires qu'ils ont voulu mettre en place, l'atterrissage dans les territoires s'avère plus bien plus compliqué que prévu.
Allez, nous restons sur cette thématique des municipales et des difficultés au sein de la majorité. 20h50 sur France Info, rappel de l'info avec Jules De Kiss.
Les députés britanniques viennent de voter pour obliger le gouvernement à publier des documents confidentiels sur le Brexit. Premier vote d'une soirée qui s'annonce intense pour le Premier ministre. Boris Johnson s'est mis son Parlement à dos en suspendant ses activités à compter de ce soir après la session en cours. Il devrait donc se voir à nouveau refuser l'organisation d'élections législatives anticipées à la mi-octobre. Le président de la Chambre des communes annonce ce soir qu'il va démissionner. La Corée du Nord et les États-Unis vont peut-être se remettre à travailler ensemble sur la question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pyongyang souhaite ce soir reprendre des négociations. Le régime autoritaire propose des entretiens à la fin du mois de septembre. Depuis février dernier, le dialogue est quasiment rompu après un rendez-vous infructueux entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le président américain Donald Trump qui annonce à l'instant que les négociations avec les talibans pour un accord de paix sont terminées pour de bon. Les deux parties discutaient il y a quelques jours encore du retrait des troupes américaines d'Afghanistan contre la promesse d'un arrêt des attentats. Les talibans ont revendiqué plusieurs attaques ces derniers jours. Je ne bouderai pas mon plaisir si le repreneur retenu est français. Le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, dit vouloir rester neutre dans la reprise d'Aigle Azur, mais quand même, sur France Info, il affirme vouloir défendre le secteur français des compagnies aériennes. On sait qu'Air France KLM fait partie des 14 candidats qui ont déposé aujourd'hui une offre pour reprendre la deuxième compagnie française en cessation d'activité. Et puis Patrick Bruel a été entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour exhibition sexuelle et harcèlement sexuel. Une audition libre hier, c'est le parquet d'Ajaccio qui a ouvert cette procédure après le signalement d'une esthéticienne. Elle reproche au chanteur d'être resté nu pendant un massage avant un concert et d'avoir insisté après des propositions déplacées. Patrick Bruel nie toute proposition à caractère sexuel.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Paysage compliqué municipal, hein, disait à l'instant Nora Amadi. Je vais vous soumettre cette étonnante interview ce matin de Valérie Pécresse. Alors ça se passe dans le camp d'en face, la présidente de la région Les Républicains de l'Île-de-France, au Quatre Vérités sur France 2. Ce matin, y est allée, elle, de sa propre proposition de label.
Il y a un certain nombre de candidats qui nous demandent le label libre. Et ce label, il sera donné aux candidats qui sont, eh bien, j'allais dire, d'une droite moderne, ouverte, qui soit pro-entreprise, d'accord, qui soit écologique, qui soit sociale. Et je crois qu'il y en aura un certain nombre, effectivement.
Un certain nombre, combien ?
Oh ben ça, c'est à la demande. Bon. Moi, ce que je donnerai mon
c'est
soutien...
C'est à la demande
oui, bien sûr, je bon. Donnerai mon soutien bon. À ceux qui le demandent.
Jean-Daniel Lévy, en écho hein, à ce que nous avons entendu ce week-end depuis Bordeaux avec La République En Marche, on a la sensation que le paysage devient un peu dingo.
Et il va être un peu dingo, un peu compliqué à analyser au soir des élections quand on va vouloir voir le rapport de force nationale. Si on veut sortir de Paris, Lyon, Marseille, essayer de regarder ce qui se passe au niveau national. Et il y aura probablement des alliances qui sont des alliances, on va dire, un peu surprenantes. Parce qu'en fait, elle indique qu'elle donnera le label libre, mais il y aura peut-être des personnes qui seront proches des Républicains ou qui auront leur quartier des Républicains et en même temps le label de libre et qui pourront faire alliance.
Avec assez peu modèles, de différences, on va dire, même programmatiques d'avec La République En Marche.
Mais d'une manière générale, en fait, quand on regarde les différences programmatiques des différentes formations politiques qui sont plaquées dans les communes, elles peuvent être assez ténues et ça va être chacun qui va faire en fonction des enjeux de sa commune, globalement, les principales orientations. Là, de toute façon, enfin, Valérie Pécresse en fait, a un espace qui est un espace relativement faible à l'heure actuelle et donc en fait, elle cherche à se reconstruire pour partie à travers les municipales.
Gilles Bernstein, quand on évoque, c'était Nora Amadi qui en a fait l'inventaire tout à l'heure de ce qui pourrait se passer, ce qui va se passer notamment à Bordeaux avec, au fond, un candidat jupéiste qui va se retrouver avec un marcheur face à lui. Est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron aurait une approche, allez, darwinienne de la vie électorale, grosso modo, que le meilleur gagne ?
Bah, manifestement, oui, parce que ça fait maintenant des mois qu'on attend qu'il donne un signe envers Benjamin Griveaux, qui est candidat officiel, mais qui n'est à ce jour pas candidat légitime. Parce que la légitimité, ça ne se gagne pas par le fait que 15 personnes d'une commission nationale d'investiture votent pour vous, fût-ce ouais. à l'unanimité.
Et il aurait fallu en passer par des primaires.
Certainement. Oui. Et on m'a dit qu'un récent dîner de la majorité, il s'est bien gardé de donner un soutien officiel à Benjamin Griveaux. Il aurait dit il y a un autre candidat et je ne souhaite pas qu'on l'ostracise. Donc oui, évidemment, il est darwinien comme beaucoup d'hommes politiques. De toute façon, maintenant, c'est trop tard pour intervenir parce qu'on dirait qu'est-ce que c'est que ce président de la République qui se mêle d'arbitrer entre deux candidats. S'il avait voulu agir, il aurait fallu agir avant en traitant Cédric Villani, ce qu'il n'a pas fait. Donc oui, pour répondre à votre question, il est darwinien.
Henri Vernet.
Oui, moi, on a longtemps dit ça, qu'il est darwinien. Je pense que là, justement, il vient de faire une entorse à ce principe. Parce que,
explication réalité, darwinien, c'est-à-dire
voilà,
évolution.
Darwinien, c'est le meilleur gagne. En gros, oui, c'est celui qui est le plus fort.
L'évolution des
espèces.
Sortira,
hein, exactement, qui sortira de lui-même son épingle du jeu. Et donc là, quand on disait ça à propos de Macron et de Paris, ça consistait en quoi ? Ça consistait à dire, écoutez, il y en a qui se disputent. Il y a Benjamin Griveaux, il y a Cédric Villani. Et finalement, ils se disputent tellement que si le darwinisme fait qu'aucun des deux émergent réellement, qui sont au touche-tout, etc., j'en mettrai un autre qui serait, c'était ça l'hypothèque, Édouard Philippe, on ferait sortir de son chapeau Édouard Philippe, qui en plus ayant le soutien naturel de la droite modérée parisienne, etc., enfin, de cette partie modérée de la droite parisienne, bref, aurait pu jouer une carte. Or, c'est justement, donc quand je dis qu'il a fait une entorse, c'est que là, la nouveauté, le côté, encore une fois, le grand théâtre, grand guignol, pourrait dire certains, de Bordeaux, de ce week-end bordelais, c'est qu'il a été mis fin à cela. Et encore une fois, avec des... Édouard Philippe ayant dit que non, je ne serai. C'est la première fois qu'Édouard Philippe met un terme aussi ferme, aussi net à ces rumeurs. Non, il n'ira pas à Paris. Donc, ça, évidemment. Jamais de manière aussi nette. Et donc, il l'a fait avec l'aval de Macron.
S'il avait vraiment voulu, il aurait nommé Villani, il l'aurait traité, il l'aurait empêché de se présenter.
Non, il en aurait fait un martyr. Non, parce qu'à un moment. Non, et puis en plus. Non, parce que dans ce. Il y a quand même des choses qui sont incontrôlables. Le monde politique, il a changé. Vous pouvez pas empêcher un Villani d'y aller. Vous, sinon, vous en faites un martyr. Mmh. Et c'est vrai que Villani, il peut se dire qu'après tout, le dégagisme a beaucoup joué dans ce pays depuis 2017. Et au nom du dégagisme, peut-être que sa candidature, malgré les maladresses de son début de campagne, pourrait le porter assez loin.
Oui, Jean-Daniel Lévy, pour conclure, il va falloir peut-être faire un petit peu le ménage d'ici à ce que les campagnes démarrent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de la majorité. On aura des marcheurs contre des modems, des marcheurs contre des agir. Ça va être très compliqué.
Et on aura même des marcheurs contre des personnes qui sont de droite et qui ont indiqué qu'elles étaient favorables à la République en marche. Donc c'est le cas par exemple à Bordeaux, comme ça peut se produire avec même des dissensions au sein de la majorité. Il y a un moment où il y aura forcément la personnalité qui jouera assez fortement et puis également le projet qui sera proposé globalement pour la ville. On sait que globalement on élit une personne, même si on vote pour une liste, on élit une personne, on élit celui qui va avoir la fonction de maire et que ça sera ce jeu-là qui jouera véritablement au final.
Allez, Henri Vernet, la une du Parisien, aujourd'hui en France, demain.
Bah écoutez, c'est un scoop, c'est Michael Schumacher, le champion du monde de Formule 1, qui est soigné un traitement secret à Paris.
Ah, révélation donc à lire, à découvrir dans le Parisien aujourd'hui en France. Merci Nora Hammadi, merci. Henri Vernet, Jean-Daniel Lévy et Gilles Bornstein d'avoir participé à ces informés. Pour ma part, je vous dis à demain soir pour une toute nouvelle édition sur France Info. Bonne soirée.